Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Exode au chapitre 1er. Exode chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 8. Nous sommes dans le contexte suivant. Le peuple d'Israël se retrouve dans le pays d'Égypte. Ils sont arrivés dans le pays d'Égypte par le biais de Joseph qui avait été vendu en Égypte comme esclave, qui par la suite a été élevé par le Seigneur dans ce pays d'Égypte et est devenu premier ministre. Et étant donné qu'il y avait une famine qui s'annonçait dans tout le pays, afin que sa famille ne meure pas de faim, le Seigneur, Joseph a fait venir tout le peuple d'Israël en Égypte afin de le préserver de la famine. Et c'est ainsi que le peuple est devenu habitant de l'Égypte. Nous arrivons donc au verset 8 du chapitre 1er. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à leur égard, empêchant qu'ils ne s'accroissent et que, s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithon, de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Amen. Donc nous voyons la fidélité que Joseph avait eue envers Pharaon à l'époque, avait fait que Joseph soit élevé et soit établi maître sur toute la maison de Pharaon. Et voilà qu'un nouveau roi va arriver donc en Égypte. Et la Bible nous dit que ce roi qui va arriver n'avait pas eu connaissance de Joseph. Donc Joseph était déjà mort à cette époque-là. Et le nouveau roi qui vient n'a pas pris connaissance de l'histoire de Joseph en Égypte. Et voyons donc le peuple d'Israël se multiplier. Il va prendre peur. Il va se dire, mais ce peuple est sur notre terre, il se multiplie en grand nombre. Si un jour il décide de se rebeller, ça risque d'être grave pour nous. Donc autant être stratégique dès maintenant, nous allons mettre en place un système pour les réduire au silence et pour les maîtriser, pour les contrôler. Et c'est donc de cette manière-là que le peuple d'Israël va simplement devenir esclave en Égypte. Donc nous voyons que l'esclavage dans lequel va entrer le peuple d'Israël n'était pas quelque chose de voulu, n'était pas quelque chose de souhaité. Personne ne peut souhaiter ou bien se complaire dans une situation, dans une position d'esclave. Et pourtant, c'est ce qui va se passer pour ce peuple-là. De la même manière que l'homme est devenu aussi esclave dans le monde, non pas parce qu'il l'a choisi, il est devenu esclave par la faute d'Adam. Donc, il est devenu esclave malgré lui. Ce n'était pas une situation voulue, mais la force des choses en fait que chaque homme qui naît aujourd'hui est esclave d'une certaine manière. Il est esclave parce qu'il n'a pas la capacité de gérer sa propre vie d'une manière libre. C'est quoi être esclave? Être esclave, c'est être privé de liberté. Celui qui est esclave, en quelque sorte, n'est plus maître de sa vie. Sa vie ne lui appartient plus en propre. On a comme quelquefois un semblant de liberté qui nous fait croire que nous sommes libres, mais la réalité de la chair nous rappelle que nous sommes esclaves. Il y avait un serviteur de Dieu qui donnait cet exemple-là, que celui qui est esclave, il est comme un chien en laisse, avec une laisse automatique. Vous connaissez les laisses automatiques? La laisse automatique, il y a un bouton dessus. Donc vous voyez le chien qui tire, il a le sentiment qu'il peut aller très loin, mais à un moment donné, il est bloqué. Parce que le maître a déclenché. Donc, en déclenchant le bouton sur la laisse, il maîtrise la distance que le chien peut parcourir. Et être esclave, c'est ça. On peut se croire quelquefois en liberté et maître de décider sur certaines choses, Mais voilà que les réalités, à un moment donné, vont nous montrer clairement qu'on ne peut pas aller au-delà. Nous sommes esclaves de la mort. L'homme est esclave de la mort. Ça veut dire que la mort est maître sur lui. Quand on est esclave, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont établies maîtres sur nous. Et c'est le cas de tout homme aujourd'hui. Même si nous pouvons quelquefois prendre la décision de jouer, de travailler, de nous marier, d'avoir des enfants, mais il y a un maître qui va nous rappeler qu'à un moment donné, non, tu n'es pas maître de ta vie comme tu le penses. Parce que viendra un jour où moi, monsieur la mort, je vais venir te prendre. Parce que je suis au-dessus de toi. Donc on peut se croire en liberté, mais en réalité être véritablement esclave de certaines choses. Et le peuple d'Israël, nous voyons que bien qu'il se multipliait, bien qu'il se mariait, qu'il fêtait, qu'il faisait certaines choses, mais on va établir sur eux désormais des chefs de corvée afin de les éprouver par des travaux pénibles de manière à ce qu'ils soient privés de liberté et surtout la liberté d'expression, la liberté de se rebeller, la liberté de dire ce qu'ils pensent. On va les lier de manière à ce qu'ils soient soumis entièrement à la loi de l'Égypte. Nous arrivons dans Exode chapitre 3. Exode 3, verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. » Dieu entend les cris de son peuple. Il est évident que les cris tels que le Seigneur en parle n'est pas simplement les cris de la voix, les cris où quelqu'un va dire au secours. C'est les cris de l'âme. Parce que nous voyons aujourd'hui des gens peuvent dire « Oh mon Dieu !» comme on l'entend, même parmi ceux qui ne croient pas dans le Seigneur. Mais ce n'est pas parce qu'ils crient « Oh mon Dieu !» que dans leur cœur, ils ont vraiment le désir de voir le Seigneur se manifester dans leur vie. Donc le cri dont le Seigneur parle, c'est le cri de l'âme. C'est une souffrance que humainement, il est difficile de traduire, mais que Dieu comprend parce que c'est quelque chose de spirituel. Et Dieu dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu vers eux. Nous voyons que beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas venus au Seigneur parce que nous avons entendu une voix particulière ou même parce que nous avons invoqué le nom de Jésus. Beaucoup d'entre nous ne connaissons pas la réalité de Jésus, la réalité de Dieu. On entend parler de Dieu comme tout le commun des mortels, mais sans avoir une réelle révélation de qui est Dieu. Et pourtant, nous sommes venus au Seigneur, parce que le Seigneur a regardé à notre cœur, il a regardé à la détresse de notre âme, parce que nous pouvons crier au Seigneur d'une certaine manière. Et certains qui sont déçus de la vie, qui sont dégoûtés de la vie, mais n'ayant pas la connaissance de Dieu, vont se retrouver dans un état qui est le témoignage, qui est la manifestation d'un cri, le cri de l'âme. Je me souviens un jour, pendant que nous étions en prière, il y avait un jeune homme qui s'est mis par terre et qui a commencé à crier. « Sauve-moi, 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 sauve-moi !» Il criait de toute sa force. Alors lorsque les choses se sont calmées, on l'a appelé à côté, on lui a dit « Mais pourquoi tu criais tout à l'heure ?» Il dit « Moi, je ne criais pas. » Il a dit « Mais on t'a entendu, tu criais. » Il dit « Non, moi, je ne criais pas. » Donc pour lui, il était dans une situation où c'est comme s'il ne maîtrisait plus son corps à ce moment-là. Mais nous, nous savions qu'il était dans un péché, qu'il a fini par avouer. Et on a compris par là que le cri qu'il manifestait, c'était le cri de l'âme qui était fatiguée de cette vie-là. Parce que la réalité de notre vie ne se résume pas à la chair telle que nous pouvons nous voir les uns et les autres. La réalité se manifeste par ce qui est invisible, notre esprit et notre âme. C'est dans l'âme d'une personne que se trouvent les sentiments, que se trouve le caractère, que se trouve notre vraie nature. C'est par l'âme qu'on fait vraiment la différence entre les uns et les autres. Et cette âme-là qui vit en nous souffre lorsqu'elle n'est pas régénérée par la volonté de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et ce jeune homme-là était dans cette souffrance. Et c'est cette souffrance que le Seigneur va entendre lorsque le peuple, lorsqu'il dit que j'ai entendu les cris de mon peuple. C'est pourquoi je disais que beaucoup d'entre nous, nous sommes venus au Seigneur parce que Dieu nous a entendus. Non pas que nous avons crié au Seigneur d'une manière particulière, mais Dieu a su discerner la douleur qu'il y avait au-dedans de nous. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, beaucoup de gens vont voir des psychologues et des psychiatres, mais des années après, leur état ne change pas. Parce que ce qui touche l'âme d'une personne, aucun docteur n'est capable de le guérir, n'est capable de le soigner. Ce qui est invisible, l'homme n'y a pas accès. Donc ce qui est d'ordre de sentiment, ce qui est ordre de spirituel, il n'y a que Dieu seul qui est à l'origine de l'homme qui puisse guérir et soigner l'homme. Donc les cris quelquefois que nous pouvons manifester, il peut nous arriver quelquefois où on a le sentiment que personne ne nous comprend. Personne n'arrive à expliquer. Nous-mêmes quelquefois nous avons du mal à expliquer la douleur que nous avons. Personne n'arrive à nous sortir de cette situation-là. Tout simplement parce que l'homme est limité. Et ce qui touche à l'invisible, ce qui touche à la détresse de l'homme, au plus profond de lui, aucun homme ne peut le soigner, aucun homme, aucun psychiatre ne peut le guérir. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui dans les hôpitaux psychiatriques des gens qui sont drogués. Pourquoi sont-ils drogués? Mais parce que la science n'a pas trouvé le moyen de les soigner. Alors le seul moyen pour qu'ils ne dérangent plus les autres, c'est de les endormir toute la journée. Et toute la journée, ils marchent comme des gens dans la détresse. J'avais croisé un jour un jeune homme à l'époque, il avait une trentaine d'années. Là, pas loin de l'assemblée, je l'ai invité à venir boire un verre et de manière à discuter. Et il me fait le témoignage de sa vie. Et c'était quelqu'un qui avait des troubles psychiatriques. Et très conscient, il m'explique que je suis comme ça parce que je suis esclave des médicaments qu'on me donne. Et il me dit, vous voulez savoir comment je suis devenu comme ça? Je lui dis, raconte-moi. Il me dit, j'avais une petite copine. Et lorsqu'elle m'a plaqué, je me suis mis en colère. J'ai pleuré, j'ai crié. Et ma mère, ayant vu mon état, elle a pris peur, elle a appelé les pompiers. Les pompiers sont venus me chercher. Et dans mon état, ils m'ont emmené directement à l'hôpital psychiatrique. Et là, je suis devenu l'homme que tu vois devant. Il dit, je suis conscient. Mais je n'arrive plus à me séparer de ces médicaments. Alors je dors toute la journée. Pourquoi? Parce que la colère qu'il avait manifestée à ce moment-là, aucun docteur n'a pu le soigner. Personne n'a rien pu faire pour lui et on l'a drogué. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui marche comme un légume. Parce qu'il est rempli de médicaments. Rempli de médicaments parce que scientifiquement, c'était impossible de régler sa situation. Et ce cri-là, qui représente le cri de l'âme, il n'y a aucun médecin sur terre qui puisse guérir et délivrer de cela. Et c'est dans cette situation que le peuple s'est retrouvé, esclave en Égypte, dans la détresse, n'ayant pas d'armée, n'ayant pas de chef à leur tête qui puisse les délivrer. Et Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu maintenant moi-même parce que j'ai vu la souffrance que lui afflige tous ses oppresseurs. Dieu est descendu et c'est la façon dont il a fait avec Moïse, c'est de la même manière que Dieu se propose encore aux humains. Nous sommes devenus esclaves par le biais d'Adam. Nous sommes devenus esclaves de nous-mêmes, esclaves de notre chair. Je le dis que l'esclave, c'est celui qui est captif de quelque chose. Mais lorsque nous ne sommes pas maîtres de décider sur le sort de notre vie, c'est que nous sommes esclaves de quelque chose. Et lorsque nous sommes attachés à quelque chose que nous ne maîtrisons pas, ça peut être la colère. Tu peux prendre toutes les bonnes résolutions. Comme chaque année, c'est le cas. Nouvel an, on prend des résolutions. Mais on se retrouve, quelques mois après, dans le contraire de ce qu'on avait résolu de ne plus faire. Parce que c'est plus fort que nous. Ce n'est pas que c'est volontairement qu'on fait ces choses-là. C'est qu'au-dedans de nous, il y a quelque chose qui nous pousse à tomber toujours dans les mêmes choses. Donc ça nous prive de liberté. Et l'esclavage dans lequel nous sommes va déranger aussi autour de nous. Celui qui est esclave de la colère, mais va faire fuir les gens autour de lui. Beaucoup de gens se sont retrouvés seuls parce que esclaves de son caractère, même s'il est conscient que son caractère fait souffrir les autres, tous les efforts qu'il fait par ses propres efforts ne payent pas. Alors il se retrouve isolé parce que esclave de sa situation, il ne peut plus être heureux. Un esclave n'est pas heureux. Lorsqu'on est esclave de quelque chose, on n'est pas heureux. Loin de là. Nous arrivons au chapitre 5. Exode chapitre 5. Moïse et Aaron, verset 1er. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Il dit: le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit: voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires: vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant: allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et qu'ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple: ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous en procurer de la paille, où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Amen. Moïse s'exécute avec Aaron et va voir Pharaon pour dire, s'exécute avec Aaron pour aller vers Pharaon pour dire: laisse aller mon peuple pour qu'il m'adore dans le désert. Voilà la demande du Seigneur. Le peuple est esclave et Dieu dit: laisse sortir ce peuple-là pour qu'il aille m'adorer. C'est ça que le Seigneur désirait, que son peuple qui s'était choisi l'adore et lui offre des sacrifices. Le Seigneur voulait rétablir une communion entre lui et son peuple. Et c'est ce que Moïse va demander. Et nous voyons que Pharaon va s'irriter de cette demande. Et il va dire: mais vous cherchez à détourner le peuple. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire: non seulement je ne vous laisse pas aller dans le désert, mais la charge de travail que je vous donnais autrefois, je vais la multiplier davantage. Vous voulez être libre, mais je veux faire de vous encore plus des esclaves. Et c'est ce qui va se passer. Tout ce qu'on leur fournissait pour fabriquer les briques, on va leur dire qu'on ne va plus vous les fournir, vous irez vous-même les chercher et vous ferez le même nombre de briques qu'autrefois. Donc la charge de travail est multipliée alors que ces gens demandaient tout simplement à être libres. Lorsqu'on est esclave, on n'est plus maître de sa vie. Lorsqu'on est esclave, on est maître de quelqu'un d'autre, on est maître d'autre chose. Et le but de tout ça, bien-aimé, c'est là notre exhortation, c'est de nous empêcher d'avoir une communion avec Dieu. Dieu a dit: laisse aller mon peuple pour qu'il m'adore. C'était ça la volonté de Dieu. Et lorsque le Seigneur voit les humains vivre tels qu'ils vivent aujourd'hui, esclaves du raisonnement, esclaves de la drogue, esclaves de l'impudicité, esclaves de toutes choses qui les empêchent d'adorer le Seigneur, la volonté de Dieu c'est de délivrer l'homme pour rétablir une communion avec lui. Parce que l'homme est esclave, il se croit libre, mais il est esclave. Le peuple se croyait libre à un certain niveau. Ils enfantaient, ils avaient une vie plus ou moins normale, mais ils ne pouvaient pas aller adorer Dieu. Notre exhortation, bien-aimée, c'est de nous dire que si dans notre vie, il y a des choses qui prennent tellement de la place au point de nous empêcher d'adorer le Seigneur, cela veut dire qu'il y a une forme d'esclavage quelque part. Et étant esclave, on ne peut pas être heureux. Étant esclave, on ne peut pas être libre de faire ce que le Seigneur attend de nous. Peut-être que tu es esclave, comme je disais tout à l'heure, de la colère. Mais étant esclave de la colère, tu ne peux pas être dans les dispositions pour servir Dieu. Tu ne peux pas être dans les dispositions pour faire la volonté de Dieu. Parce que la colère est un péché que le Seigneur considère comme grave. C'est pour la colère que le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc le Seigneur nous montre par là que la colère est un péché particulier qui ouvre de grandes portes. Et ces portes étant ouvertes, ça va nous mettre dans une forme de faiblesse par rapport à toute forme de péché. Dans la question du péché, il n'y a pas une question de mathématiques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis en colère que forcément je vais tomber dans la violence. Alors je fais attention à la violence pour me préserver de tomber. Dans le péché, tout est confondu. Car dans la nature du péché, le péché, la puissance du péché va attirer tout ce qui est lié à sa nature. Je donnais un jour cet exemple-là. Lorsque un métal tombe dans un trou, tu n'as pas accès à ce trou-là par tes propres mains. Alors, stratégiquement, tu vas prendre un aimant pour attirer le métal que tu as fait tomber. Mais lorsque tu vas attirer ce métal avec l'aimant, est-ce qu'il n'y a que ce métal-là qui viendra? Il n'y a pas que ce métal-là. S'il y avait d'autres métaux tombés à l'intérieur, tout ce qui est de la même nature sera attiré par l'aimant. Et dès l'instant où nous devenons esclaves de quelque chose, eh bien nous ouvrons la porte à d'autres choses encore qui viendront s'ajouter, qui sont de la même nature, à nous détourner du Seigneur pour nous empêcher de louer Dieu et de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'état d'esclavage, même si nous sommes esclaves par rapport à une chose particulière, soyons certains que ça ouvrira la porte à d'autres choses et fera de nous, nous mettra dans une condition très compliquée et très difficile. Très compliquée et très difficile. Être esclave de la colère nous emmènera à être esclaves d'autre chose. Certains, comme je l'ai dit, cet homme-là qui a piqué la colère parce qu'on l'avait plaqué par sa copine, mais par quel moyen on l'a soigné? On l'a soigné en lui donnant des médicaments pour lesquels il est devenu esclave. Alors que, à la base, il n'était pas dans cet état-là. Son état initial ne nécessitait pas qu'il prenne ses médicaments. Mais voilà qu'un péché dans lequel il est entré a amené un autre péché qui l'a amené à être esclave, malgré lui. Comme je l'ai dit au début, on n'est pas esclave parce qu'on en fait le choix. On est esclave quelquefois malgré nous, quelquefois par imposition de l'ennemi sur nous, mais quelquefois aussi parce que nous ouvrons des portes. Et dès l'instant où nous sommes dans un état, la volonté du monde, c'est de rajouter autre chose pour nous empêcher de louer Dieu. C'est pourquoi il peut y arriver quelquefois que par les choses du monde, par le travail, on devient tellement esclave de notre travail qu'on n'a même plus le temps pour Dieu. C'est ainsi que beaucoup voulant vivre selon le train de ce monde, alors qu'il avait des heures de travail convenables, va entrer pour faire beaucoup plus d'heures, travailler plus pour gagner plus. Bon, ce qui n'est pas totalement vrai parce qu'après d'ailleurs on paye encore plus d'impôts, mais certains entrent dans ce système-là et entrant dans ce système, lorsqu'ils rentrent du travail à la maison, tellement fatigués, qu'au moment où il veut lire la Bible, il s'endort. Au moment où il veut prier, il saute, il sursaute, il s'est endormi. Tellement fatigué. Donc le monde va chercher à tellement nous accabler pour nous empêcher d'avoir du temps pour le Seigneur. C'est ce que Pharaon a fait. Vous voulez être libre. Dès l'instant où on sent que tu es sur la voie de la liberté, que tu es à l'approche du Seigneur, l'ennemi va redoubler d'efforts pour te ramener en arrière. C'est pourquoi souvent lorsqu'on fait le pas de venir vers le Seigneur, on a l'impression qu'il y a une grande pression autour de nous. On a l'impression que les problèmes se multiplient parce que la voie de la délivrance est proche et l'ennemi le voit. Et voyant que tu es proche d'être délivré de l'esclavage dans lequel il t'a maintenu pendant des années, il va s'agiter sur toi pour te faire croire que si tu t'avances encore, tu auras des problèmes. Et c'est de là, bien-aimé, que j'ai connu des personnes qui étaient au milieu de nous et qui ont dit, mais quand je viens à l'église, j'ai trop de problèmes à la maison. Alors, quelle est la solution qu'il a trouvée? De ne plus venir à l'église. C'est comme si l'église était la source de ses problèmes. Mais certainement qu'il y a d'autres réalités qu'on rencontre dans le monde. Comme je l'ai dit une fois, les hôpitaux psychiatriques ne sont pas remplis de chrétiens. Il y a des gens qui meurent tous les jours sur la route, ce ne sont pas forcément des chrétiens. Il y a des gens qui meurent dans la guerre en Afghanistan ou bien en Syrie, ce ne sont pas forcément des chrétiens. Donc le problème atteint tout homme. Mais l'ennemi va te faire croire que c'est la destination, la voie de la liberté que tu prends, de vouloir t'accrocher au Seigneur pour être libre en Jésus-Christ. Il va te faire croire que la source du problème, c'est ça. Or, la réalité, bien-aimé, c'est que lorsqu'on s'approche du Seigneur, le plan de l'ennemi, c'est de nous en éloigner tout simplement. Et c'est ce que Pharaon a fait. Vous voulez être libre? Non seulement je ne vous rends pas votre liberté, mais en plus je vais vous accabler davantage. Vous allez travailler davantage, vous allez être esclave davantage et vous n'allez pas vous en sortir. C'est ça le projet et l'objectif du monde. Et forcément, ça nous met dans un état, humainement parlant. Nous prenons Romains chapitre 7 et l'apôtre Paul explique l'état dans lequel un homme peut se trouver qui n'a pas le Seigneur. Un homme qui n'a pas le Seigneur, dans quel état il peut se retrouver et ne plus être de lui-même? Combien même il a l'intelligence? Combien même il a certaines capacités intellectuelles? Combien même il a la force physique, mais il n'a pas la force de lutter contre un ennemi qui ne voit pas? Le péché, on ne le voit pas. Le péché habite dans nos membres parce que nous avons hérité de cette nature d'Adam. Et donc, humainement parlant, nous ne pouvons pas lutter contre lui. Romains chapitre 7, au verset 15. « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif, c'est-à-dire esclave, de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Amen. Voilà l'état que l'apôtre Paul décrit. Il dit que ce qui est bien, je le sais. Dans mon entendement, dans mon intelligence, dans ma conscience, je sais ce qui est mal. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'avoir entendu la Bible ou bien qu'on nous présente devant un juge pour comprendre que la violence n'est pas bonne. Humainement parlant, on sait que lorsque on fait preuve de violence, on fait du mal à l'autre. Donc c'est inscrit dans notre conscience que la violence est quelque chose qui détruit, qui ne construit pas. Quand nous voyons les conséquences de ce que produit le tabac, les conséquences de ce que produit la drogue, les conséquences de ce que produit l'alcool en excès, par nos propres yeux, nous pouvons discerner que ces choses-là détruisent parce que nous avons un minimum d'intelligence. Et l'apôtre dit que j'ai ce minimum d'intelligence qui me fait comprendre que telle chose est mal. Mais il dit que lorsque je décide de faire le bien, je me retrouve à faire le mal. Non pas que je veux faire le mal, mais c'est que je trouve au-dedans de moi une puissance qui me pousse vers le mal alors que je sais très bien que ce que je vais faire est mal. Donc je sens que je n'ai pas la force de lutter contre cette chose-là. Il dit, mais si je suis capable de discerner que tel est le mal, ça veut dire que la loi est bonne. Ça veut dire que la loi de Dieu est bonne. Ça veut dire que ce que le Seigneur me demande de faire, qui est contraire à la chair, est bonne. Il dit, mais j'ai conscience de cela. Mais je n'y arrive pas. Par nos propres efforts, bien-aimés, nous ne pouvons pas faire ce que le Seigneur attend de nous. Par nos propres efforts, nous ne pouvons pas appliquer la Bible. Humainement parlant, dire à une personne, regarde le dictateur qui est encore au pouvoir. Cette personne a été témoin pendant la guerre de la façon dont on a tué ses enfants, dont on a tué sa femme, dont on a abusé sexuellement devant lui de ses enfants. De lui dire pardonne à ce monsieur-là. Humainement parlant dans sa chair, la seule chose qu'il a envie, c'est de se venger. Mais Dieu dit, tu aimeras même tes ennemis. Alors si le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis, C'est parce que par le Saint-Esprit, lui, il nous donne la capacité de le faire. Et là, l'apôtre explique la situation d'un homme qui n'est pas encore régénéré. Que même si dans son entendement, il sait que telle chose, Dieu lui demande, il n'a tout simplement pas la force de le faire. Et il dit par là, je reconnais alors qu'il y a dans mon corps, il y a dans mes membres une loi qui me dépasse. C'est la loi de la puissance du péché. Et cette puissance du péché qui habite tout homme, fait que l'homme est tout simplement esclave. Esclave de cette nature. Alors combien même il prend les résolutions de changer, combien même il prend les résolutions de faire le bien, au bout d'un temps, comme on le dit en français, et d'ailleurs ce proverbe, je pense, est vrai, chasser le naturel, il revient au galop. Donc c'est chasser ce qui est naturel, ce qui est en toi, ça revient au galop, ça revient vite. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de toi. Ça fait partie de toi. On voit des personnes qui se font éclaircir la peau avec de l'eau de Javel, avec toutes sortes de produits qui plus tard vont provoquer le cancer. Après, ils diront, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Ils se font éclaircir la peau avec toutes sortes de produits. Mais quand ils arrêtent de mettre ces produits, qu'est-ce qui se passe ? La peau revient comme elle était. Parce que naturellement, tu es noir. Et tu veux changer. Même les personnes qui vont bronzer sous UV, parce qu'elles veulent être noires. Mais dès l'instant où elle arrête ses activités sous UV, la peau revient comme elle était. Chasser le naturel, il revient au galop. Naturellement, c'est comme ça. Et la faiblesse qui existe dans notre vie, dans notre corps, on ne peut pas la combattre par nous-mêmes, on ne peut pas la combattre avec des moyens humains. Et l'apôtre explique cela. Il dit que quand j'essaye de faire les choses selon la loi de Dieu, mais ce qui est en moi me ramène tout simplement à ma propre identité charnelle. Et je n'ai donc pas la force de lutter contre ces choses-là. Et c'est là où l'apôtre dit donc, je reconnais qu'au-dedans de moi, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas. C'est la loi du péché qui habite tout homme. Et c'est dans cet état, bien-aimé, que nous sommes aujourd'hui, parce que nous avons hérité d'Adam, que nous sommes quand on n'accepte pas le Seigneur, parce que nous avons hérité cette nature d'Adam. Et cet état d'esclavage, on ne peut pas dire, bien-aimé, que nous sommes heureux. Un esclave n'est pas heureux. Et bien qu'il pense être heureux, la réalité, c'est que sa communion avec Dieu est coupée. Et le monde va chercher à nous maintenir dans cet état d'esclavage. C'est pourquoi on parle de mode. C'est quoi la mode ? La mode, ce sont des choses qui partent, qui reviennent, mais qui animent, qui nous distraient dans la vie, qui animent notre vie pour se dire que nous sommes toujours à la page. Donc il y a des gens qui sont constamment sur Internet pour savoir quel est le dernier téléphone, la dernière paire de chaussures, le nouveau sac à main. Donc ils sont constamment dans ces recherches-là qui nous animent. Mais tant que nous sommes animés de ces choses-là, notre pensée n'est pas vers le Seigneur. Il y a des gens qui sont constamment dans le renouvellement, nouvelle voiture. Donc il faut que toujours tout soit nouveau. Une télévision qui sort, même si celle-ci elle fonctionne, non, on trouve une maladie à la télévision pour dire non, il faut qu'on change. Nouvelle télévision. Avec écran carré, écran rectangle, écran triangle, donc tout ce qui sort, on va chercher à prendre parce qu'on veut se maintenir à la page. Et ayant le réflexe, ayant le regard plongé sur ces choses-là, notre pensée est tout simplement détournée de Dieu. C'est comme ça que le diable procède. C'est de mettre autour de nous toute forme d'attraction, toute forme de divertissement pour nous empêcher d'avoir la pensée tournée vers Dieu. Et à ce moment-là, nous demeurons dans cet état d'esclavage par rapport au monde. Par rapport au monde, bien-aimé. Nous voyons des personnes esclaves des médicaments. Je connais personnellement une personne esclave des médicaments. Une personne très proche. Cette personne était en France à un moment. Elle prenait des médicaments. Et voilà qu'à un moment donné, les médicaments vont manquer. Les médicaments manquent. La carte de soins expirée. Elle se retrouve dans une situation où elle n'a pas d'argent. Donc vous allez voir que ça fait une semaine, deux semaines passées, la personne est en bonne santé, mais toujours dérangée. On va voir le médecin auscute, il dit non, vous allez très très bien, arrêtez les médicaments. Bien aimé, la personne a été s'endetter pour aller acheter les médicaments. Parce que sa sécurité est dans le médicament. Mais mettant sa sécurité dans le médicament, ça veut dire tout simplement que le Seigneur n'est plus son maître. Elle est devenue esclave du médicament. Donc sa paix ne dépendait même pas de la présence de Dieu. mais dépendait tout simplement de voir qu'il y a une boîte de médicaments remplie près d'elle. Donc sa sécurité était là. Et on peut être rapidement esclave de beaucoup de choses qui nous empêchent d'avoir les pensées tournées vers Dieu. Il y a des gens qui sont esclaves des traditions et des coutumes. Esclaves des traditions et des coutumes. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Quand l'apôtre Paul parle aux Galates, il dit à l'église de Galates, aux chrétiens de Galates, que vous avez reçu un évangile. Il y a des gens qui viennent derrière moi, qui vous prêchent autre chose et vous vous laissez détourner si facilement. Pourquoi? Il dit, mais c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Donc ne vous laissez pas de nouveau mettre sous un joug. Pourquoi revenir en arrière alors que le Seigneur vous fait entrer dans une nouveauté? Mais il y a des gens qui sont tellement attachés à leur tradition qu'ils préfèrent revenir en arrière et se complaire dans cette situation parce que c'est un héritage qu'ils ont reçu de la famille, je ne sais pas comment. Et ils sont tellement attachés à ça. Mais en demeurant dans ces choses-là, je ne suis pas en train de dire que tous les traits des traditions sont mauvais. Je dis qu'il y a des traits de la tradition, de la culture dans certains pays qui sont clairement anti-bibliques. Alors, refusons la confrontation, refusons le combat, on reste dans ces situations-là. C'est ainsi que certains participent encore au culte des morts. Non, mais tu viens seulement, bon, on va verser un peu de vin, un peu de boisson pour ton grand-père qui est décédé, le jour où tu dois te marier, et puis on te dit, bon, toi aussi tu verses un petit peu, toi aussi tu viens, tu verses un peu. Ça, c'est le culte aux morts. Comment quelqu'un qui est mort, non seulement puisqu'il est enterré dans ton pays d'origine, toi tu verses là ici pour que lui va boire depuis là-bas. Donc c'est totalement bête. Mais l'homme est tellement attaché à ça qu'il se retrouve dans toutes ces pratiques-là. Mais à force de demeurer dans ces pratiques-là, on revient aussi aux premières œuvres. On revient aussi aux premières œuvres parce que les traditions et les cultures sont l'enchaînement de beaucoup de choses. Donc on ne peut pas dire non, je ne fais que ça. En ne faisant que ça, comme je l'ai dit, un point qui te maintient dans l'esclave ouvrira la porte à d'autres choses. Dans ce que tu maintiens là, dans les histoires de tradition, un jour ça reviendra à autre chose. Nous voyons aujourd'hui des chrétiens devenus chrétiens. Dieu les a sortis des traditions. Aujourd'hui, ils marient leur enfant. Ils demandent des sommes astronomiques. Ça, c'est surtout chez les Africains. Il donne sa fille en mariage, il demande une dot, c'est-à-dire donc tellement de l'argent, c'est devenu un vrai commerce. Aussi bien que ceux qui ont des filles, ils calculent déjà que dans tant d'années, je sais que je peux changer la voiture. Donc ils ont des calculs, donc ce sont vraiment des choses méchantes et qui deviennent un obstacle pour le mariage. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup vivent dans le péché. Parce que lorsqu'ils savent déjà qu'on va leur annoncer une liste de 3 pages, il dit, bon, on va d'abord rester comme ça. Et c'est là où on voit le diable, comment il nous tient dans les traditions. Parce que vous allez voir ces familles-là, accepter que les gens restent comme ça sans se marier, pendant des années avec des enfants, ça ne pose aucun problème. Mais dès qu'ils disent, on veut se marier, ils sont prêts à lui taper dessus. Alors la personne dit, bon, je préfère rester en retrait. Je préfère rester en retrait. Et on voit des choses, bien aimées, des pages et des pages. Il y en a qui demandent des haches, d'autres demandent des vaches. Donc, des choses, on se dit, mais vous allez faire quoi avec tout ça? Même ceux qui font ça ici en Europe, ils demandent des lampes à pétrole, mais ici le courant est stable, tu vas faire quoi avec la lampe à pétrole? Et les gens restent attachés à ça. Mais toutes ces choses-là nous maintiennent dans l'esclavage. Et étant esclaves, c'est souvent les enfants qui subissent ça qui sont les plus malheureux. Qui subissent ça qui sont les plus malheureux. Moi, je dis que Dieu nous connaît aussi. Il sait comment qui éprouvait qui. Parce que moi, si c'était moi, je n'aurais pas payé. Si c'était moi, je n'aurais une longue liste comme ça, je n'allais pas payer. Donc Dieu sait à qui il permet ça. C'est pourquoi, bien aimé, pour détruire ces histoires-là, il faut être aussi prêt à renoncer au mariage. Il faut être aussi prêt pour montrer que c'est l'évangile qui prime d'abord. Alléluia. Quand j'étais au Congo dernièrement, j'ai discuté avec un notaire justement sur cette question-là. Parce qu'on avait fait notamment des émissions où on expliquait et on dénonçait ces choses-là. Alors, j'ai discuté avec un notaire qui connaissait la loi. J'ai dit, mais selon la loi du pays, il y a un montant qui est fixé où on dit que la dot ne doit pas dépasser 50 000 francs CFA. Ça, c'est écrit dans la loi. J'ai dit, mais pourquoi vous n'appliquez pas ça? Il me dit, mon frère, un papa qui va arriver, qui a élevé sa fille, il dit, bon, je ne veux pas. Ou il impose ça. On va faire quoi? On va le mettre en prison? Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire que la tradition est même au-dessus de la loi. Elle est même au-dessus de la loi. Et les gens en restent esclaves. Le Seigneur nous a sortis de là, bien-aimés. Pourquoi retourner en arrière et nous maintenir dans ce qui ne construit pas, dans ce qui va nous faire souffrir? Sortons de là. Il y a des gens qui sont esclaves de l'argent. Ça, c'est peut-être le plus grand maître. Et c'est le seul moment dans la Bible, dans Matthieu 6, où le Seigneur se compare avec un autre Dieu. C'est la seule fois où le Seigneur se met en opposition avec un autre Dieu. Il dit, on ne peut pas servir Mammon. Mammon, c'est-à-dire le Dieu de la richesse, et Dieu lui-même. Parce que si tu veux servir les deux, tu finiras par haïr un et aimer l'autre plus. Le Dieu de l'argent, c'est vraiment le Dieu de ce siècle-là. Quand je dis l'argent, je parle de la richesse d'une manière générale. Et quand on est esclave de ça, on ne peut pas être heureux. Parce que notre seul souci, c'est de savoir comment s'enrichir, comment toujours posséder plus. Je connais personnellement des personnes qui ont 3 emplois. Qui ont 3 emplois. Quand il finit son emploi normal, le soir, il va donner des cours de sport. Le week-end, qui est censé se reposer, il va encore travailler dans la sécurité. Et toute sa vie se contente ça parce qu'il faut plus. Pour construire, pour ceci, pour cela. Mais en donnant tout ton temps au travail, à quel moment tu auras du temps pour ta femme, pour tes enfants? À quel moment? Et nous voyons les conséquences. Lorsque des enfants sont délaissés, lorsque les parents ne sont pas présents dans la vie des enfants, on voit les conséquences dans notre société. Un enfant qui est encadré, qui est équilibré dans sa famille, aura beaucoup plus de pourcentage de réussite dans la vie qu'un enfant qui est livré à lui-même très tôt. Parce que les parents ont décidé de travailler plus, esclaves de l'argent. Tous ces gens-là qui sont dictateurs, qui sont chefs d'entreprise du CAC 40, c'est-à-dire les 40 entreprises les plus rentables de la planète, tous ces gens-là, bien-aimés, vous pensez que s'ils arrêtent de travailler aujourd'hui, ils n'ont pas assez pour vivre jusqu'à leur mort? Mais ils cherchent toujours à faire plus. Pourquoi aujourd'hui les agriculteurs se plaignent? Parce que le prix qu'ils vendent est minime par rapport au prix que la grande distribution revend. Donc, c'est-à-dire les gagnants dedans, ce sont les grands toujours. Mais tous ces grands-là, même s'ils baissaient un peu le prix, vous pensez qu'ils n'auraient pas autant d'argent? Ils auraient autant d'argent, mais l'amour de l'argent, la cupidité emmène l'homme dans une forme de violence, emmène l'homme dans une forme de guerre où il est prêt à écraser l'autre. Étant esclave lui-même de l'argent, il va chercher aussi à faire d'autres esclaves. Parce que n'étant pas heureux, ayant la démangeaison de toujours vouloir posséder, il ne peut pas être heureux. Il y a un païen qui a dit, le plus malheureux ce n'est pas le pauvre. Le plus malheureux c'est celui qui cherche toujours à s'enrichir. Parce que celui qui cherche toujours à s'enrichir, en fait, il n'est jamais rassasié. Donc n'étant jamais rassasié, même si le compte est là, mais ayant le souci de vouloir toujours plus, il est toujours à la recherche, et étant dans cette recherche-là, et dont il ne voit pas, comment dire, le bout du tunnel, il demeure tout simplement esclave et donc malheureux. Être esclave de l'argent, bien-aimé, va nous éloigner du Seigneur à un moment donné. Ça va nous éloigner du Seigneur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans le monde, on nous propose toute forme de crédit, toute forme de choses pour que nous soyons en position de pouvoir posséder. Et beaucoup qui sont entrés dans ces systèmes-là sont encore plus malheureux aujourd'hui. Parce que endettés, ça fait 5 ans qu'ils remboursent un crédit. Mais ça fait 5 ans, il n'a toujours pas commencé à rembourser le crédit. Ça fait 5 ans qu'il ne rembourse que les intérêts. Le taux de prêt tellement élevé que ça fait 2-3 ans, il n'a pas encore commencé à rembourser le crédit. Et les choses courent. Et la personne devient de plus en plus malheureuse. La personne entre dans la mort. Or, le danger d'entrer dans ces choses-là, c'est de nous éloigner de Dieu. Mais le but de nous éloigner de Dieu, bien-aimé, c'est pas simplement comme un temps de pause. Le but du diable, c'est de nous éloigner du Seigneur pour nous faire perdre le salut. C'est ça la finalité. Puisque lorsqu'on est esclave, on ne s'appartient pas. Ça veut dire que le sort de ta vie ne dépend pas de toi, mais dépend de celui qui est ton chef. Des gens se sont suicidés parce qu'ils se sont retrouvés endettés. Des gens ont tué parce qu'on a voulu leur voler de l'argent. Parce qu'ils étaient tellement esclaves de cela. L'état d'esclavage, bien aimé, est quelque chose de mauvais. Comme l'apôtre Paul l'explique, il dit que de ses propres forces, il ne peut pas lutter. De notre propre force, avec notre propre intelligence, on ne peut pas lutter contre ces choses-là. Nous prenons Galates 5, le passage que j'ai énoncé, nous allons le lire. Galates chapitre 5. Verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Demeurez donc fermes. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pour quelle liberté? La liberté de ne plus être esclaves de la chair. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a affranchis. Ce qui veut dire, bien aimé, que toutes les fois où nous ne sommes pas dans la position de vivre librement l'évangile, ça veut dire qu'il y a un problème. Je ne dis pas que nous sommes directement esclaves, mais je dis que nous sommes dans un processus soit d'esclavage ou bien que nous sommes déjà esclaves. La réalité, c'est que si nous ne sommes pas libres de vivre la vie chrétienne, ça veut dire que nous sommes sous la servitude de quelque chose. Si nous ne sommes pas libres d'aimer comme le Seigneur nous le demande, ça veut dire que nous sommes esclaves de quelque chose. Si nous ne pouvons pas pardonner comme Dieu nous le demande, ça veut dire que nous sommes esclaves de quelque chose. Or, comme le Seigneur dit, on ne peut pas servir de maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas être esclave de Dieu et esclave du monde en même temps. Et si nous ne sommes plus esclaves de Dieu, ça veut dire qu'il y a un autre Seigneur que Jésus-Christ sur notre vie. Et si Jésus-Christ n'est pas notre Seigneur, ça veut dire tout simplement que nous ne lui appartenons pas non plus. Or, si nous n'appartenons pas au Seigneur, ça veut dire tout simplement que notre salut est en danger. Or, la raison pour laquelle le Seigneur avait demandé à Pharaon de laisser aller son peuple, c'était pour l'adorer. Et de cette même manière que si le Seigneur nous a délivrés, c'est pour que nous puissions l'adorer. Alors, le fait que nous ne puissions pas adorer le Seigneur peut vouloir dire, bien aimé, que nous sommes esclaves de quelque chose. Et comme je le dis et je le répète, je ne connais pas un esclave qui puisse être heureux. On ne peut pas être heureux lorsque nous sommes esclaves de quelque chose qui nous impose, qui nous oblige. On peut devenir esclave de quelle manière? Dans Jean 8, 34, le Seigneur dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Quand on te dit que celui qui se livre, ça veut dire que c'est celui qui se donne. Je disais tout à l'heure qu'on peut devenir esclave parce que les choses se sont imposées sur nous, comme ça a été le cas pour le peuple d'Israël. Mais là, le Seigneur dit que celui qui se livre, c'est-à-dire que celui qui fait la démarche d'aller vers le péché, il risque d'en devenir aussi esclave. L'homme pense maîtriser, comme j'ai dit tout à l'heure. Lorsque vous allez des fois devant le collège, ou pour tous ceux qui ont été au collège, on a déjà vu des fois à la sortie du collège, des jeunes vouloir jouer les grands, se prendre pour des grandes personnes. Et on les voit là en train de fumer dehors. Mais c'est tellement pas bon qu'ils crachent toutes les deux secondes. Ils fument et ça a un mauvais goût dans la bouche, donc des crachats partout. Parce que le goût de la fumée, c'est pas bon. Et à ce moment-là, il se prend pour le chef. Il remonte le col, il sort le jean, il baisse le jean et il se prend pour un chef. On voit le caleçon qui sort, il se prend pour un dur. Et il est là en train de cracher. Mais au moment où il décide de fumer, c'est lui le chef. C'est lui qui est fort. C'est lui qui est fort devant les autres. Mais vient à un moment donné, qui devient le chef? C'est la cigarette. Ce n'est plus toi qui décides que je vais fumer. C'est la cigarette qui dit tu me fumes. Et tu deviens esclave. Là, ça veut dire que tu ne domines plus. Mais c'est la cigarette qui te domine. Il y a des gens qui disent, non, juste un verre, juste un petit verre. Après deux verres, trois verres, quatre verres. Et à force d'aligner verre sur verre, À un moment donné, tu te retrouves même à voler à Lidl des bouteilles de whisky. Bien-aimé, au départ, on peut se croire fort. Le Seigneur dit que celui qui se livre au péché devient esclave du péché. L'apôtre Paul dit qu'il y a au-dedans de lui une force qui dépasse son entendement. Il ne peut pas lutter contre ça. C'est pourquoi la Bible nous dit « fuyez le péché ». Au départ, tu peux te croire fort. Mais vient à un moment donné, la chose que tu pensais maîtriser, c'est elle qui te maîtrise maintenant. C'est elle qui te maîtrise maintenant. Donc le mieux, bien-aimé, c'est de ne pas se livrer au péché. De ne pas se livrer à ce qui ne fait pas du bien à ta chair. Comment savoir que quelque chose n'est pas bon? Observe tout simplement les conséquences. Renseigne-toi sur les conséquences. Est-ce qu'en consommant telle ou telle chose, est-ce que ça produira la vie en toi? Tu comprendras si la chose est bonne ou pas. Or, le Seigneur veut nous libérer de toutes ces choses-là. Il veut nous libérer de toutes ces choses-là. L'apôtre Jacques nous dit, dans le premier chapitre de Jacques, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui m'a tenté. La tentation, c'est quoi? La tentation, c'est le fait d'être dans une situation qui va nous pousser à pécher. C'est d'être, comment dire, sous une influence qui va nous pousser à pécher. Et Dieu dit que lui ne tente personne. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas nous mettre dans une situation pour nous pousser à faire le mal. Alors, ça veut dire qu'il reste deux options. Parce que sur la terre, il y a Dieu. Il y a nous et il y a le diable. Alors la tentation qui nous pousse à pécher, la Bible nous dit que ça ne vient pas de Dieu. Ça veut dire qu'il reste deux solutions. Soit nous, soit le diable. Le diable l'a fait dès le commencement avec Adam et Ève. Il a tenté, il a influencé pour les emmener à se détourner de Dieu. Donc nous savons que le diable, ça c'est son boulot. C'est son job à plein temps, à chaque moment. Lui ne se repose pas. Il ne vit que pour ça, que pour détourner les humains de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Il a très peu de temps pour détourner les hommes de Dieu et pour nous amener à brûler éternellement avec lui. Donc nous savons que le diable a cette puissance-là, a cette intelligence pour détourner l'homme du Seigneur. Et l'autre option qui reste, c'est nous-mêmes. Et c'est ce que l'apôtre Jacques dit. Il dit que quelquefois, nous sommes tentés par notre propre convoitise. Nous sommes tentés par nos propres désirs. Ayant la convoitise de quelque chose, et lorsque la tentation vient et qu'elle trouve la convoitise, c'est là où nous tombons dans le péché. Et tombant dans le péché, il y a toujours le risque de devenir esclave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'au-dedans de toi, il y a la volonté de désirer quelque chose ardemment, non pas dans le désir, comme on pourrait avoir le désir de manger un plat particulier. La convoitise est liée au bonheur, c'est-à-dire que tu te dis, si j'ai telle chose, je serai plus heureux dans la vie. Il me manque telle chose pour être fort. Il me manque telle chose pour être respecté. C'est-à-dire la convoitise, c'est le désir de quelque chose qui est censé rendre ta vie meilleure. La convoitise, c'est le fait de vouloir gérer ton propre bonheur. Et l'apôtre dit que lorsque tu as ce sentiment dans ton cœur, et que maintenant le diable vient te tenter avec quelque chose, s'il trouve dans ton cœur la convoitise, c'est là où tu es en proie à tomber et à devenir esclave du péché. Si aujourd'hui, tu aimes tellement l'argent, quelqu'un qui vient, tu te dis, bon, comme tu travailles dans l'administration, si tu peux me falsifier certains documents, moi je te donne tant d'argent. Si dans ton cœur, tu as l'amour de l'argent, au moment où lui, il vient avec cette parole-là, tu tombes. Mais si dans ton cœur, tu n'as pas l'amour pour l'argent, même si la personne vient te proposer 1 million, il vient avec sa tentation, il repart avec. C'est ça que l'apôtre Paul explique. L'apôtre Jacques explique. Il dit que la tentation, lorsqu'elle vient et qu'elle trouve la convoitise, c'est là où il y a naissance du péché. Donc, comment nous devenons esclaves? D'abord, lorsqu'il y a la convoitise au-dedans de nous. C'est pourquoi la Bible nous demande de vivre dans le contentement, de nous contenter de ce que nous avons, de nous contenter de ce que Dieu nous donne. Si tu as le peu que tu as, sois heureux avec ça. Si Dieu te donne plus, sois heureux aussi avec ça. Mais toi, ne cherche pas à posséder plus. Ne pense pas que c'est en ayant telle ou telle chose que tu seras beaucoup plus heureux. Avec ce genre de pensée, le diable viendra te tenter. Tu tomberas dans le péché et tu prends le risque d'en devenir esclave. Et étant esclave de ce péché-là, tu t'éloignes tout simplement du Seigneur. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors, bien-aimés, toutes les fois où nous ne sommes pas libres d'être tout simplement des chrétiens, ça veut dire qu'il y a un problème d'esclavage quelque part. Ça veut dire que la délivrance que le Seigneur veut nous apporter, nous ne l'avons pas saisie. La Bible nous dit que Jésus-Christ est notre Rédempteur. C'est quoi le Rédempteur? Un Rédempteur, c'est celui qui avait l'autorité, qui avait un certain pouvoir, qui rachetait un esclave à l'époque. Quand les gens étaient esclaves, ils étaient achetés par des personnes. Et la personne pouvait acheter l'esclave et lui donner un titre de liberté qui le rendait libre. Ça se faisait. Et cette personne-là, on l'appelait le Rédempteur. Il achetait l'esclave et il lui redonnait sa liberté. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ est notre Rédempteur. Parce que nous étions esclaves de Satan. Nous étions esclaves de notre propre chair. Et le Seigneur est venu, par sa vie, mourir à la croix, afin que par le prix de son sang, il nous a rachetés et il nous rend libres maintenant. Et cette liberté-là a eu un prix inestimable. C'est pourquoi, bien-aimés, ayant été affranchis de la chair, affranchis du diable, affranchis du péché, pourquoi faire marche arrière et revenir sous la servitude encore? Sortons de l'esclavage. Le Seigneur nous tend la main et c'est un choix. Et puisque c'est Dieu qui nous délivre, c'est le Seigneur lui-même aussi qui nous soutiendra. Le diable risque de te faire croire que être esclave va te poser des problèmes. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et qu'ils se sont retrouvés dans le désert avec Moïse, à un moment donné, ils se sont plaints. Ils ont dit, Moïse, pourquoi tu nous as ramenés ici? Au moins en Égypte, là-bas, il y avait de la viande. On avait de quoi manger. Tu nous ramènes dans le désert pour mourir. Pourquoi tu nous as sortis? Et ça, c'est le plus grand danger, bien-aimé. C'est de ne pas se souvenir d'où on vient. C'est de ne pas se souvenir qu'on était esclave, qu'on était esclave de la mort. Avant d'entrer dans la terre promise, Moïse va parler au peuple. Il va dire au peuple Israël, souviens-toi où tu étais. Souviens-toi là où Dieu t'a sorti. Même si tu as marché pendant 40 ans dans le désert, reconnais quand même que tu n'as pas manqué de quoi manger. Reconnais quand même que tes vêtements, tes souliers ne se sont pas usés sur toi. Reconnais-le. Même s'il y a eu des temps difficiles. Mais reconnais quand même ce que le Seigneur a fait pour toi. Il dit parce que tu vas entrer dans une bénédiction. Tu vas entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Mais lorsque tu entreras dans ce pays-là, garde-toi de te dire que c'est par ta force que tu es arrivé là-bas. Garde-toi de te dire que c'est par ton intelligence que tu es arrivé là-bas. Entrer dans cette ingratitude, bien-aimé, nous fera revenir en arrière. Et c'est la raison pour laquelle, quelquefois, en tant qu'enfants de Dieu, nous retombons dans l'esclavage. Parce que nous avons oublié combien nous étions loin de Dieu. Nous avons oublié combien nous étions liés. Il y a un prix. Le prix de la liberté a déjà été payé. Maintenant, ce que le Seigneur nous demande, c'est tout simplement de faire le choix. Le choix d'être libre. Avec Dieu, c'est tout simplement une question de choix. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Le Seigneur ne va pas s'imposer dans la vie de qui que ce soit. Dieu ne va pas s'imposer dans notre vie. Il a tout accompli et il nous propose. C'est à nous simplement de faire le choix et de dire, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux expérimenter et vivre cette vraie liberté. Je ne veux plus être esclave de la colère qui m'enlève la joie de vivre, qui m'enlève le bonheur. Je ne veux plus être esclave de l'argent qui me pousse à mentir, qui me pousse à faire des fausses déclarations, toujours pour gagner un petit peu plus. Ça, c'est un choix. Mais Dieu qui est fidèle, bien-aimé, ne nous condamne pas. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Quelle que soit la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le Seigneur ne nous condamne pas. Ce que le Seigneur veut, c'est nous libérer et nous faire expérimenter, nous faire connaître le véritable bonheur. Mais ça, cette décision, ce choix-là, nous appartient. Que le Seigneur nous aide ce matin à faire le bon choix. À Jésus-Christ le seul soit la gloire. Amen. Seigneur, merci. Merci, Seigneur de gloire, pour ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur de gloire, que nous étions si loin de toi. Nous étions esclaves, Seigneur. Esclaves de la télévision, Seigneur de gloire. Esclaves de l'argent. Esclaves de la jalousie, Seigneur. Esclaves de la colère. Toutes ces choses-là nous éloignaient de toi et nous empêchaient, Seigneur de gloire, de vivre en communion avec toi. Seigneur, nous te remercions pour le salut en Jésus-Christ qui nous fait entrer dans une véritable liberté, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas être libres de façon partielle, mais nous voulons être totalement libres, Seigneur, totalement libres. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous refusons d'avoir un autre Seigneur que toi sur notre vie. Nous refusons d'avoir un autre Dieu sur notre vie. C'est toi que nous avons choisi, Seigneur Dieu de gloire, et c'est ta volonté que nous voulons faire aujourd'hui. Seigneur, tu vois au-dedans de nous tout ce qui nous éloigne de toi. Tu vois au-dedans de nous, Seigneur de gloire, toutes les choses que nous ne maîtrisons pas. Seigneur, nous venons nous humilier devant toi. Nous venons implorer ta grâce, Seigneur, afin que par ta puissance, Seigneur Dieu de gloire, tu nous délivres de tout ce qui nous rend captifs du péché. Seigneur, aide-nous. Car Seigneur, c'est vrai, comme Paul l'a dit, quand on veut faire ce qui est bien, Seigneur, nous trouvons au-dedans de nous une loi qui nous pousse à faire ce qui est mal. Et par notre propre force, Seigneur de gloire, nous ne pouvons pas lutter contre cela. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens au secours, Seigneur de gloire, de notre âme, Seigneur de gloire, qui souffre au-dedans de nous des douleurs de l'esclavage, Seigneur, de l'état d'esclavage. Seigneur, aide-nous.
Afin d'être libre.